et il y a un seul Dieu. Le Dieu des chrétiens, le Dieu que nous révèle les Saintes Écritures, la Bible, est un être complexe et mystérieux, d'accord? C'est pas simple, cette idée-là de la Trinité. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que les chrétiens ont inventé, c'est quelque chose que la Bible nous révèle sur la personne de Dieu. Le mot Trinité lui-même n'est pas dans les Écritures, c'est un mot que le christianisme s'est donné pour résumer une idée qui revient constamment dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y a trois personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et je vais juste vous donner deux exemples très très rapides, d'accord? Deux exemples où on voit dans les Écritures la Trinité qui est présente. Manifestation de la Trinité au baptême de Jésus. Alors, je vous lis le passage dans Matthieu 3, verset 16-17. Dès que Jésus eut été baptisé, alors vous avez Jésus qui est présent, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, j'ai la troisième personne de la Trinité qui est présente ici. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui qui parle en parlant de Jésus comme le Fils, bien, c'est le Père, d'accord? Donc, j'ai le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont tous les trois présents. Les chrétiens ne sont pas, c'est super important de comprendre ça, puis c'est peut-être une évidence, mais je pense que c'est facile d'être mêlé aussi. Je ne veux pas prendre pour acquis ce que vous savez et ne savez pas. Les chrétiens ne sont pas polythéistes. On ne croit pas en plusieurs dieux, et c'est pas parce qu'on va prier Dieu le Père, Dieu le Fils, qu'on est polythéiste, qu'on croit en plusieurs dieux. On croit qu'il y a un seul Dieu. Il est mystérieux et complexe, mais il y a un seul Dieu. Les chrétiens ne sont pas non plus, ça vous avez peut-être jamais entendu ce terme-là, modalistes. Alors, il y a une vieille fausse doctrine, il y a une vieille hérésie qu'on a vu apparaître assez tôt dans l'histoire de l'Église, qui voulait l'idée suivante, c'est que pourquoi est-ce qu'on a des fois Dieu le Père qui est présent, des fois Dieu le Fils, des fois le Saint-Esprit? Ben, dans le fond, c'est une personne qui change de costume. OK? Puis donc, parfois, il apparaît comme ça, parfois, il apparaît comme ça. Un peu comme si vous alliez voir une pièce de théâtre, puis vous aviez, des fois, ça peut arriver, on va aller voir une pièce de théâtre, puis il y a un seul acteur qui joue plusieurs personnages, et donc qui change, débarque de scène, se change, rembarque, puis là, c'est fascinant de voir justement sa capacité à changer de personnage. En théologie, on appelle ça être modaliste. On croit que Dieu se présente sous différents modes. C'est pas ce que les chrétiens croient. Les chrétiens n'ont jamais cru cela. Nous ne sommes pas modalistes. On croit pas que Dieu, dans un sens, jouerait la comédie en changeant de costume. On pense vraiment que d'une manière complexe et mystérieuse, il y a trois personnes en Dieu. Et je prends le temps de vous lire ces passages-là en introduction simplement pour vous montrer que, les trois personnes sont là au baptême de Jésus. D'accord? Les trois sont là. Je comprends que c'est Dieu. Il pourrait changer de costume à la vitesse de la lumière. Mais ça serait vraiment vouloir nous tromper, là. C'est clair qu'il y a trois personnes qui sont là. Un autre passage très rapidement, c'est dans la formule que Jésus nous a donnée pour baptiser. Lorsqu'on baptise quelqu'un qui place sa foi en Jésus-Christ, on le baptise non seulement, pas seulement dans le nom du Père, pas seulement dans le nom de Dieu, pas seulement dans le nom de Jésus, mais on le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand Jésus disait cela devant des Juifs qui comprenaient pas, pour eux c'était nouveau vraiment cette notion-là de Trinité, ils comprenaient très bien que si tu baptises quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es en train de dire que ces trois personnes-là ont la même autorité. D'accord? Donc, Jésus s'est fait connaître dans son ministère comme le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Il s'est révélé comme celui qui est en relation avec son Père. Il parlait toujours de Dieu d'une manière assez intime, nouvelle. Mon Père me fait connaître les choses que je dois faire. Mon Père me fait connaître ses œuvres. Mais lorsqu'il arrive comme ça à la fin de son ministère, puis il dit, OK, maintenant, si vous faites baptiser, vous allez vous faire baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il est en train de dire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tous trois la même autorité. Et c'est en leur nom qu'on se fait baptiser. D'accord? Donc, les chrétiens ne sont pas polythéistes, les chrétiens ne sont pas modalistes. On croit vraiment que d'une manière mystérieuse, il y a trois personnes en Dieu. Dieu est un être unique. Okay, si vous étudiez un peu en philosophie, tout ça, même des gens qui ne croient pas dans la personne, dans l'existence de Dieu, mais qui essaient de se dire, si Dieu existe, comment est-ce qu'il serait? Ils vont dire, si Dieu existe, Dieu est l'absolu. L'idée que Dieu soit à notre échelle, mais ce ne serait pas Dieu, ce serait comme un Dieu, ce serait une patente, comme un super-héros qui peut nous sauver. Mais si Dieu existe, Dieu est absolu, Dieu est merveilleux, Dieu est mystérieux, Dieu est plus grand que tout. Et donc, c'est important, si la parole de Dieu nous fait connaître Dieu, comme étant Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est important pour nous chrétiens d'apprendre à connaître le Père, le Fils et l'Esprit. Si dans votre vie de prière, lorsque vous êtes en train de parler à Dieu, le seul mot que vous êtes capable d'utiliser, c'est « Dieu », probablement que vous gagneriez beaucoup à lire les Écritures puis à étudier Jésus-Christ dans la Bible, à étudier le Saint-Esprit dans la Bible, pour pouvoir, lorsque vous allez dans la prière, réaliser vraiment cette dynamique-là, cette richesse-là dans la personne de Dieu. Lorsqu'on tombe en amour, puis un jour on se marie, on ne veut pas rester sur une première impression, on veut que les années qui sont devant nous, qu'on va passer ensemble, nous amènent à se connaître de plus en plus. Puis une des choses qu'on découvre, je disais ça à Star tout à l'heure lorsqu'on s'en venait, c'est que l'être humain est tellement complexe. On est tellement complexe, tellement... C'est pas simple un être humain, c'est compliqué, mais aussi c'est riche. Et imaginez Dieu un instant. Et donc, vous ne voulez pas, comme chrétien, demeurer sur quelque chose de très superficiel sur la personne de Dieu. Vous voulez découvrir vraiment le Père, le Fils et l'Esprit, la Sainte Trinité. Lorsqu'on apprend à étudier la Sainte Trinité, on découvre des choses sur Dieu qu'on ne découvre pas autrement. Par exemple, on découvre l'humilité de Dieu. Dans la relation entre le Père et le Fils, même dans la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on découvre l'humilité de Dieu. Dieu est parfait, puis Dieu est humble. On découvre que Dieu prend plaisir à servir. Au sein de la Trinité, il y a un service qui est là. Et là, c'est super riche pour moi. Parce que si au sein de la Trinité, il y a cette humilité-là, ce service-là, cet abandon-là, cette obéissance-là, au sein de la personne de Dieu même, mais si je veux ressembler à Dieu, je vais prendre plaisir, je vais trouver une ressource dans ça pour prendre plaisir à être votre serviteur, être serviteur de mon épouse, serviteur de mes enfants. Je vais prendre plaisir à ça parce que j'ai appris ça de la Sainte Trinité. J'apprends que Dieu n'est pas orgueilleux. J'apprends que Dieu est amour, qu'il nous a aimés en se donnant lui-même. C'est une chose de dire que Dieu a envoyé son Fils, c'est une autre chose de réaliser que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils. Vous méditerez sur ce qui s'est passé lorsque Christ crie « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est quoi cette espèce de fracture-là qui apparaît dans la personne de Dieu? Si je crois dans la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Dieu, puis qu'à un moment donné, il y a une personne en Dieu qui abandonne l'autre personne en Dieu, il y a une fracture qui est rentrée à quelque part dans cette relation-là parfaite et éternelle. Ça en dit long sur l'amour de Dieu pour nous. Voyez-vous, alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut méditer, d'accord, sur la Trinité. Je voulais juste comme l'introduire, pour s'assurer qu'on comprend bien cette idée-là de la Trinité, et juste vous encourager à aller méditer sur ça. Ce matin, on s'attarde sur la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est appelé dans la Bible parfois. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ aussi. C'est vraiment important de le réaliser. Le Consolateur. Donc, il y a toutes sortes de noms qui lui est donné, comme toutes sortes de noms sont donnés au Fils, comme toutes sortes de noms sont donnés à Dieu lui-même, Dieu le Père. L'Esprit peut sembler, de toute la Trinité, être la personne la plus mystérieuse. Parce que c'est un Esprit. D'accord? Dieu le Père, c'est comme simple, c'est Dieu. Quand quelqu'un commence à prier, il s'adresse à Dieu. Il réalise qu'il est Père, Créateur. Le Fils, mais le Fils, on l'a vu à travers les évangiles, on lit, puis là, on le découvre, puis là, on le voit. T'as quasiment l'impression que tu pourrais faire son tableau, tu pourrais faire un croquis de Jésus, tu sais. Fait qu'il est concret. Mais là, l'Esprit, c'est mystérieux. Alors, il peut paraître celui qui est le plus mystérieux. Pourtant, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on étudie les Écritures, il y a énormément de passages qui parlent de l'Esprit de Dieu. Vous voyez que le Saint-Esprit est là à la Genèse, à la création, puis dans les 4-5 derniers versets de la Bible, il est encore présent, d'accord? Donc l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, dans Genèse 1, Et à la toute fin, l'Esprit dit avec l'Église. Et donc, le Saint-Esprit est encore là. Alors, si pour vous, la personne du Saint-Esprit, c'est un être mystérieux, je vous encourage à faire une étude biblique sur le Saint-Esprit. Allez chercher ces mots-là, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, l'Esprit de Christ, le Consolateur. Sortez ces passages-là, puis commencez simplement à tirer des conclusions par vous-même. Jasez-en avec des frères et sœurs. Vous allez voir qu'on peut comprendre beaucoup de choses sur l'Esprit de Dieu. Maintenant, voici ce qu'on va voir ensemble ce matin. Des trois personnes de la Trinité, le Saint-Esprit est la plus près de nous, constamment en communion avec chaque chrétien pour parler à nos cœurs et produire en nous la vie divine. Je répète ça. Des trois personnes de la Trinité, le Saint-Esprit est la plus près de nous, constamment en communion avec chaque chrétien pour parler à nos cœurs et produire en nous la vie divine. Ce matin, ce qu'on va voir en deux points rapidement, premièrement, qui est l'Esprit de Dieu et quelle est son œuvre? Je vais aller super vite sur ça, je ne vais même pas aller dans des passages, je vais juste donner quelques informations. Puis deuxièmement, donc qui est l'Esprit, quelle est son œuvre? Deuxièmement, avec le passage de Galates 5, on va aller regarder de plus près à son rôle dans nos vies. J'aimerais ça, lorsqu'on va partir ce matin, que ce soit plus clair pour nous dans notre tête, comment on est en communion avec l'Esprit, comment il travaille dans nos vies, d'accord? Donc j'aimerais qu'on parte avec quelque chose de concret, et il me semble que c'est plus simple qu'il n'y paraît vivre cette communion avec l'Esprit-Saint. Alors, premièrement, l'Esprit-Saint, troisième personne de la Trinité, sa personne, son œuvre. La première chose à dire, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit quelconque. C'est quoi les esprits qui font partie de la culture? Quand on parle d'esprit, à quoi on peut penser autre que l'Esprit-Saint? Donnez-moi des exemples. Rapidement. Mauvais esprit, d'autres choses. Esprit des morts, d'autres choses. Des anges, d'autres choses. Casper, le Friendly Ghost. L'esprit des morts, des fantômes, d'accord? L'esprit de Dieu n'est pas un esprit quelconque. Ça va? Puis l'autre chose que je voudrais ajouter, si parmi vous, il y en a ou certains qui écouteront le message, vous êtes profondément sceptiques sur l'expérience chrétienne, l'esprit de Dieu n'est pas non plus une lubie, le fruit de notre imagination, notre conscience qui nous parle, d'accord? Ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. Et si vous êtes chrétien, comme on va le voir un petit peu plus loin, vous savez que ce n'est pas ça le Saint-Esprit, ce n'est pas notre conscience. Mais on pourrait être porté à le croire. Les chrétiens imaginent tout ça. Dans le fond, c'est une game avec leur conscience qui joue. Quand tu expérimentes la nouvelle naissance, il y a quelque chose profondément qui change en toi. Tu dis non, ok, là je suis passé dans... Ouf, j'ai été warpé dans une autre zone, là, une autre dimension. D'accord? Et donc, l'Esprit Saint n'est pas un esprit quelconque, c'est pas le fruit de notre imagination, c'est pas un esprit avec lequel j'entre en relation, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous donne son esprit. D'accord? Donc, si c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est entièrement Dieu aussi. Il n'est pas moins Dieu que le Père, moins Dieu que le Fils. Le Fils n'est pas moins Dieu que le Père, moins Dieu que l'Esprit. Il est entièrement Dieu aussi. Et ça, on le voit dans son œuvre. Dieu est créateur, l'Esprit est créateur. Dieu donne la vie, c'est l'Esprit qui donne la vie quand Dieu donne la vie. Quand l'Esprit se retire, c'est la mort qui vient. D'accord? Tout ce que Dieu fait avec puissance, il le fait par son Esprit. Toute la gloire merveilleuse qu'on voit en Jésus dans les évangiles, c'était par l'Esprit de Dieu qu'il le faisait. D'accord? Donc l'Esprit de Dieu est entièrement Dieu. Je vais résumer son œuvre dans quelques instants. L'Esprit de Dieu est entièrement Dieu. L'Esprit de Dieu est une personne. Vous allez jaser avec des gens, dans des sectes, dans des mouvements, puis ils vont vous dire que l'Esprit de Dieu est une puissance, une sorte d'énergie qui émane de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, puis là je ne prendrai pas le temps ce matin d'aller voir plein de passages, on voit que l'Esprit, on peut l'attrister. Je peux attrister l'Esprit de Dieu. On n'attriste pas une puissance. On la diminue, on l'augmente, on la dirige, on la canalise, mais on n'attriste pas une puissance. L'Esprit de Dieu a une volonté propre. Il a des désirs. On va voir le passage en Galates 5. L'Esprit de Dieu a des désirs très, très forts. C'est une personne qui a des désirs. L'Esprit de Dieu parle. Ce n'est pas une force. D'accord? Il parle. Donc, l'Esprit de Dieu est une personne en propre. C'est important de réaliser cela parce que quand je réalise que je suis habité par le Saint-Esprit, ça veut dire que je suis habité par une personne. C'est mystérieux, je sais, c'est weird si vous n'êtes pas croyant. Mais la réalité, c'est ça, c'est que je suis habité par une personne, d'accord? son œuvre. Je résume ça rapidement. L'Esprit est créateur, comme j'ai dit tout à l'heure. Il donne la vie, non seulement la vie spirituelle, mais c'est lui qui donne, lorsque Dieu donne son souffle de vie à tout être vivant, c'est par l'Esprit qu'il le fait. On pourrait aller voir quelques passages dans l'Ancien Testament pour voir ça. À travers les évangiles, si vous voulez faire une étude fascinante sur le Saint-Esprit, lisez l'évangile de Luc, puis regardez combien de fois il est dit que c'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, par l'Esprit que Jésus accomplit des actes de puissance. D'accord? Lorsque c'est même le Saint-Esprit qui dirige Jésus. C'est vraiment fascinant de le lire parce que lorsque tu comprends bien que c'est Luc qui a écrit l'évangile de Luc, évidemment, mais Actes des apôtres, là tu réalises que finalement le message que Jésus, que Luc est en train de nous dire, c'est que le même Esprit qui est venu sur Jésus pour qu'il agisse avec puissance nous est donné à nous après. Et donc, il est en train de dire, je vais vous expliquer ce qui se passe dans les actes. Comment ça se fait que c'est tellement extraordinaire tout ce qui se passe là? Les milliers de conversions, les signes, les miracles, tout ce qui se passe là, c'est que c'est exactement le même esprit qui était sur Jésus, qui est avec l'Église. D'accord? Donc, c'est par l'Esprit Saint que Jésus fait ces miracles-là. Il est Dieu, mais c'est par l'Esprit qu'il le fait. C'est vraiment fantastique, c'est vraiment fascinant. L'Esprit manifeste sa puissance par des miracles, des signes dans l'histoire de l'Église aussi. L'Esprit inspire la parole de Dieu. On va revenir sur ça dans quelques instants. Et puis l'Esprit crée la vie nouvelle en nous quand nous croyons en Jésus-Christ. Ça m'amène à mon deuxième point. Je pense que souvent on ne réalise pas, mais des trois personnes de la Trinité, le Saint-Esprit est celle qui est la plus concrète et la plus évidente dans nos vies. C'est un esprit, là. Je pense que nous ne le réalisons pas, je répète ça, mais des trois personnes de la Trinité, le Saint-Esprit est celle qui est la plus concrète et la plus évidente dans nos vies. Je m'explique. Un jour, je vais me retrouver devant Dieu. C'est ça que la parole me dit, hein? On attend ce jour-là glorieux. Un jour, tous les êtres humains vont se retrouver devant Dieu. Ils vont fléchir le genou. Ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, un jour, on va se retrouver devant Jésus-Christ. Ça va être extraordinaire. Mais je ne sais pas si vous faites partie des quelques spécimens exceptionnels dans l'histoire de l'Église. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'apparition de Jésus. Quand je ne vous demanderai pas de lever la main si vous en avez eu, là, mais ils sont assez exceptionnels dans l'histoire de l'Église. Il y en a eu, on s'entend, il y en a eu. Je n'ai pas de problème à croire à ça. Je crois qu'il y en a encore. On a quelques récits ces dernières années de musulmans qui se sont convertis après une apparition de Jésus. C'est complètement fou, d'accord? C'est fascinant, j'ai lu des beaux témoignages, vraiment. Mais c'est quand même exceptionnel dans l'histoire de l'Église, d'accord? Donc moi, Dieu le Père, là, il n'a pas écrit sur le mur de ma chambre. Puis Dieu le Fils ne m'est jamais apparu. Donc pour le Père, le Fils, moi je marche entièrement par la foi. Je ne sais pas pour vous, mais c'est totalement par la foi. Des trois personnes de la Trinité, celui que j'expérimente au quotidien, c'est l'Esprit-Saint. Parce que la parole de Dieu nous dit que son esprit est en chacun de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et que c'est par son esprit qu'il y a cet écho-là dans mon cœur qui dit « Abba Père ». Si en ce moment-là, dans ton cœur, tu as vraiment la certitude que tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'aime, que Dieu t'est favorable, c'est la voix de l'Esprit-Saint en toi. Comprenez-vous? Quand vous passez, vous traversez des moments difficiles où il y a mille doutes, mais il reste une certitude. Dieu est là, Dieu m'aime, Dieu m'est favorable, Dieu va prendre soin de moi, il va me secourir. Je le sais, c'est mon Père. C'est pas, encore une fois, c'est pas une lubie, c'est pas le fruit de votre imagination. Moi, avant d'être chrétien, je croyais pas ça, là. Comprenez? Je croyais pas ça. Je pourrais le croire à la limite parce que je crois toutes sortes d'affaires, mais quand je commence à lire les Écritures, ça vient mettre de la lumière. Et si après avoir lu les Écritures, tu as encore cette certitude-là, si après avoir lu les 10 commandements, réaliser que tu n'es pas capable d'obéir à ces 10 commandements-là, tu as encore cette paix-là dans ton cœur, cette certitude que Dieu t'est favorable. Cette voix-là en toi, c'est l'Esprit-Saint. Donc, au quotidien, vous entendez l'Esprit. Tous ceux ici qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, quotidiennement, vous entendez l'Esprit. J'espère que ça rend l'expérience du Saint-Esprit plus concrète pour vous. J'espère que c'est plus concret. Quand vous avez un doute, puis vous dites, « Ouais, mais je ne sais pas si je suis en communion avec l'Esprit de Dieu. » Posez-vous la question dans votre cœur à ce moment-là. Est-ce que clairement vous êtes enfant de Dieu? C'est l'Esprit que vous entendez. Si vous avez encore des doutes, allez lire les Écritures. C'est après avoir lu les Écritures, qui bien souvent nous condamnent, hein, parce qu'on voit la sainteté de Dieu. Vous avez encore cette conviction que vous êtes un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, vous êtes en train d'entendre là. Allez lire l'œuvre de Jésus à la croix. C'est après avoir lu ça, vous avez encore cette conviction que vous êtes un enfant de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu que vous entendez. Et donc, des trois personnes de la Trinité, même si le Saint-Esprit est peut-être celui qui nous semble la plus mystérieuse, en réalité, actuellement, jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher, des trois personnes de la Trinité, ça va toujours être la plus concrète. Parce que Christ m'a donné son esprit, il habite en moi. La personne de l'univers, dans tout l'univers, qui est la plus près de toi, c'est le Saint-Esprit. Évidemment, à une condition, si tu as cru en Jésus-Christ, alors il t'a donné son esprit. Et donc, pour que je puisse avoir cette conviction-là, il faut premièrement que j'ai cru en Jésus-Christ. Quand tu crois en lui comme ton sauveur, comme ton Seigneur, quand tu te tournes désespérément vers lui pour dire « j'ai besoin de ton pardon, ta grâce », déjà l'Esprit est à l'œuvre, je peux vous dire, c'est pas quelque chose qui vient de la chair, de se tourner comme ça vers Dieu. Ça, c'est mystérieux. À quel moment l'Esprit t'est donné, si déjà tu es en train de crier comme ça, probablement qu'il est déjà là. À ce moment-là, l'Esprit de Christ t'est donné. Et la parole de Dieu nous dit que tu es scellé du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 1, versets 21-22, on lit ceci. « Et c'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs, et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. » Un jour, je vais voir Dieu face à face. Pour l'instant, j'ai l'Esprit Saint en moi. C'est la première part qu'il m'a donnée de lui. C'est la première part qu'il m'a donnée de tout ce que je vais expérimenter avec lui. J'ai l'Esprit en moi. C'est sa marque en moi. D'accord? Si j'ai cru en Jésus-Christ, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Puis j'espère que qu'après le message, dans votre pensée, si vous êtes enfant de Dieu, vous allez pouvoir commencer à dire « j'aime vraiment l'Esprit Saint ». Parce que je réalise maintenant, quotidiennement, il est là dans ma vie, il me parle. Il me rappelle que je suis un enfant de Dieu. Et que j'ai été scellé par l'Esprit. J'ai l'Esprit en moi, c'est le sceau, c'est le gage, c'est la garantie que je vais aller dans la présence de Dieu un jour. Et chaque fois que j'ai des doutes, il me rappelle que j'ai été pardonné, que Dieu est mon Père. C'est l'œuvre de l'Esprit en moi. Deuxièmement, l'Esprit qui est en toi parle à ton cœur et à ton intelligence. Puis c'est là que je voudrais que ça devienne un petit peu plus concret pour chacun, d'accord? Puis j'espère même interpeller ceux qui ne sont pas chrétiens. Je vais m'expliquer. L'Esprit qui est en toi parle à ton cœur et à ton intelligence. Il y a vraiment ces deux volets-là où l'Esprit qui est en nous vient éclairer nos réflexions, nos raisonnements, les choix de vie qu'on fait. Mais il y a aussi quelque chose qui résonne au niveau de nos sentiments et de notre volonté. Premièrement, je l'ai introduit tout à l'heure en disant, en parlant de cette idée que l'Esprit qui est en nous nous dit qu'on est enfant de Dieu. Dans Galates 4:6, on lit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et donc, l'Esprit n'est pas là simplement pour corriger des fautes dans ma vie, pour me donner des informations, pour m'aider à comprendre des choses. L'Esprit est là pour parler à mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a cet écho, cette voix en moi qui dit « Abba, Père », c'est un esprit de consolation. C'est un esprit de sécurité. C'est un esprit de paix qui parle à mon cœur. Voyez-vous, avant que je sois chrétien, ma conscience parlait. Puis je pense que c'est une des choses où on peut se tromper, puis où quelqu'un qui n'est pas chrétien pourrait confondre, surtout s'il lit la Bible un petit peu, il va mélanger la voix de sa conscience, puis la voix du Saint-Esprit. Mais la voix de la conscience seule peut être désespérante. Je ne sais pas pour vous, moi, au moment de ma conversion, c'est ça qui se passait. C'était le désespoir d'entendre constamment ma conscience qui me disait « Mon cabochon, qu'est-ce que tu es en train de faire encore? » Puis à un moment donné, cette conscience-là devenait lourde. Je pense que l'esprit était en train de m'attirer à ce moment-là. Mais aujourd'hui, quand ma conscience me dit « Mon cabochon, regarde ce que tu as fait encore », l'esprit est là pour me dire « Tu es un enfant de Dieu, viens à la croix, repens-toi. » Accepte sa grâce, relève-toi. Abba, Père, me rappelle cette relation que j'ai avec Dieu. Et donc, l'Esprit qui est en toi parle à ton cœur et à ton intelligence. Deuxièmement, il parle à ton intelligence. Premièrement, à ton cœur. Deuxièmement, à ton intelligence. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai mentionné rapidement que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, d'accord? Donc, la ressource numéro un pour le Saint-Esprit pour nous parler, c'est pas premièrement mon cœur. Mon cœur peut me tromper, je peux mêler des fois la voix de l'Esprit, mes désirs à moi, toutes sortes de choses, je peux avoir la confusion. Premièrement, c'est la parole de Dieu. On lit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » L'Esprit parle premièrement par sa parole. Premièrement par sa parole. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous jasez avec dans la rue, tout ça, il dit « Ah ouais, moi je suis chrétien, je suis croyant, je suis sauvé, moi je connais Dieu. » Peut-être même qu'il va vous dire, il vous dira pas « Je suis chrétien », il va dire « Moi je connais Dieu, je suis près de Dieu. » Là tu jases avec, puis tu réalises qu'il y a plein de choses qu'il croit qui sont en opposition franche, claire avec la parole de Dieu. C'est quoi le réflexe là? Tu dis « Attends un petit peu, là. » Peut-être que tu connais un Dieu, peut-être que tu connais un esprit, peut-être que tu es en communion avec un esprit. Je suis pas certain que c'est l'esprit de Dieu parce que la parole, c'est l'épée de l'esprit. J'aimerais ça juste te montrer qu'est-ce que l'esprit a dit. Là, des fois, tu rencontres des gens comme ça, c'est super difficile pour eux parce que leur expérience est tellement forte qu'ils sont convaincus que c'est Dieu qui leur a parlé. Pourtant, ce Dieu-là qui leur a parlé dit le contraire de ce que la parole de Dieu dit. D'accord? Alors, comment est-ce qu'un chrétien peut entendre quotidiennement l'Esprit-Saint parler à son intelligence en plongeant les regards quotidiennement dans la parole de Dieu? Comment est-ce qu'un chrétien peut entendre quotidiennement l'Esprit-Saint parler à son intelligence, pas seulement à son cœur, en plongeant les regards quotidiennement dans la parole de Dieu? Ce n'est pas une option pour nous de faire ça, vous comprenez? Fait que si vous êtes chrétien depuis longtemps puis vous dites « Ouais, je sais, c'est écrit « marche par l'Esprit » puis là, je me sens coupable, je me repens, je demande pardon, tout ça, mais c'est tellement difficile. » Ben c'est ça, j'aurais le goût de te demander, c'est quand la dernière fois que tu as médité sur la parole de Dieu? Parce que c'est son épée. Et donc, si sa parole est près de ton intelligence, l'Esprit va pouvoir disposer ton cœur à marcher par l'Esprit, à faire la volonté de Dieu. C'est vraiment pas une option pour les chrétiens. Moi, personnellement, je me lève le matin, puis c'est pas parce qu'en me levant, dans mon cœur, ce qui vient, c'est « Merci Seigneur, je sais que tu m'aimes. » La deuxième parole, c'est pas automatiquement « Le seul désir de mon cœur aujourd'hui, c'est de faire ta volonté. » Il y a des journées comme ça, il y a d'autres journées, c'est « Ok, puis en passant, merci Seigneur, je vais retourner me coucher. » Et ce qui fait toute la différence, c'est que j'ai développé cette bonne habitude, je rentre jusqu'à ma machine espresso, j'allume ça. Là, de ce temps-ci, j'écoute la parole de Dieu en audio, fait que je me plug, je pars ça, puis j'écoute la parole de Dieu. Avant d'aller prier, des fois je vais faire une petite prière juste avant d'écouter la parole ou de lire la parole. Mais je prends ce temps-là, 1, 2, 3 chapitres, 1, 2, 3 espresso. Après ça, je m'en vais dans la prière. Mais j'ai besoin de ça, vous comprenez? C'est pas parce que je suis un enfant de Dieu, j'ai été scellé de l'Esprit, que bim, bam, c'est correct. Je me présente le dimanche à l'église, puis et voilà, tout va être correct, je suis boosté pour la semaine, je vois clair tout le temps. Non, ça se peut que l'Esprit soit juste suffisant pour me dire, t'es-tu sûr que tu veux faire ça? Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Oui, t'es un enfant de Dieu, mais pas certain que c'est une bonne idée de faire ça. Voyez-vous, parce que je prive l'Esprit de son épée, qui est là pour aiguiser ma pensée, qui est là pour me conduire. Et donc, l'Esprit parle quotidiennement aux chrétiens, à notre cœur et à notre intelligence. Il le fait à travers sa présence dans nos cœurs et il le fait à travers sa parole. Enfin, l'Esprit t'a fait naître de nouveau et par sa puissance, il te conduit dans une vie nouvelle. Puis, c'est le dernier élément que je veux voir avec vous ce matin, d'accord? Je termine avec ça, mais je pense que c'est super pratique, puis c'est là que je vais davantage dans Galates 5, d'accord? Si vous avez expérimenté la nouvelle naissance, si tout à l'heure, lorsque je vous disais, c'est quoi l'écho qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu? Tu penses à l'Évangile, tu dis, waouh, je suis un enfant de Dieu. Bien, à ce moment-là, vous savez, vous avez expérimenté au jour de votre conversion la vie de l'Esprit en vous. D'accord? Ça, c'est concret. Ça, c'est vrai. Puis, il reste cet aspect-là. Mais de la même manière que je suis né spirituellement par une œuvre de l'Esprit-Saint, il y a eu un changement radical et profond en moi, c'est par sa puissance aussi que je vais grandir. Parce que l'Esprit de Christ veut former Christ en moi. C'est ça qu'il veut faire. L'Esprit de Christ m'a été donné pour me conduire à devenir, à marcher comme Jésus-Christ. Cet même esprit de puissance qui était là dans l'Évangile de Luc sur Jésus est en moi pour former Christ en moi. Et on pense que c'est compliqué, mais c'est plus simple que ça en a l'air. Galates 5, verset 16-17, regardez avec moi. « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. OK, de quoi il parle lorsqu'il parle de la chair ici? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Il dit, l'esprit a des désirs contraires à la chair, ça veut dire que l'esprit est en lutte avec mes muscles, il n'aime pas mon biceps, puis on chicane souvent. C'est quoi? Verset 19-20, qui disent... Pardon? Voulez-vous? OK, allez-y, lisez l'anneau. Amen, merci. Donc, lorsque Paul est en train de parler ici de la chair et de l'esprit, il faudrait commencer à partir de Galates 1, puis si vous n'avez pour une heure à lire Galates, d'accord? En fait, ça cet après-midi, si ce n'est pas clair dans votre esprit, c'est quoi qu'il veut dire par la chair et l'esprit? Lisez, à un moment donné, vous allez voir clairement, il fait référence à notre vieille nature. Il fait référence au vieil homme, qui lui aussi donne écho à l'intérieur de nous, puis qui voudrait nous amener par-ci, par-là. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est que vous avez reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui habite en vous, mais il y a le vieil homme qui est là. D'accord? Et le vieil homme, la vieille nature, cette nature pécheresse-là, a d'autres désirs que l'esprit. Maintenant, le mot qui est là est super fort. D'accord? Quand je vous dis que vous entendez l'esprit, là, je vais essayer de le rendre très concret pour vous. Lorsque c'est écrit que l'esprit a des désirs contraires au désir de la chair, le mot qui est là pour désir, épitoumia en grec, ce que ça dit, c'est un sentiment très, très fort. Quand je suis tombé en amour avec Esther, j'ai dit, c'est celle-là que je veux marier. Quelqu'un d'autre pouvait rentrer dans la compétition, mais il allait prendre la bande, je vous le dis. Parce qu'il y avait un désir très, très fort qui était là en moi. Il y avait une passion très forte qui était là. Paul est en train de nous dire ici que l'esprit qui habite en toi a des épitoumia, il a des désirs très forts. Souvent, on trouve ça difficile dans la vie chrétienne parce qu'on arrive dans des circonstances où on sent une lutte, un combat qui est à l'intérieur de nous. D'accord? Je vois quelque chose que je devrais faire, j'ai le goût de faire quelque chose d'autre, puis il y a cette lutte-là qui est à l'intérieur de moi, d'accord? Puis là, on trouve ça lourd, puis on dit, mais il me semble que j'avais pas tous ces combats-là avant d'être chrétien. Des fois, ça nous arrive de se dire, c'était comme plus simple. C'est sûr, tu étais mort. Un mort, ça se bat pas. Ça suit le flot. Vous comprenez? Puis des fois, il y avait des relents de conscience qui venaient parce qu'on était créé à l'image de Dieu, puis Je ne veux pas offenser quelqu'un qui n'est pas chrétien ici, d'accord? Mais voici comment un chrétien voit ça. Avant d'être chrétien, il m'arrivait des fois de me sentir coupable. Les Écritures appellent ça la conscience, d'accord? Mais ça génère en moi plus de la culpabilité. Des fois, ça m'amène à prendre des petites décisions, mais pas des gros combats entre la sainteté et le péché. C'est pas vrai. Alors, voyez-vous, comme chrétien, Paul me dit, c'est ça la game, les amis. Vous avez l'Esprit Saint en vous et lui a des désirs contraires à votre vieille nature. Et donc, lorsque vous sentez ces luttes-là qui jaillissent en vous, qui sont là, vous devriez dire « Alléluia ». Vous devriez juste être content quelque part de dire « Waouh, je suis plus mort! » L'Esprit Saint est en moi, puis il y a une lutte qui est là, qui est en moi. C'est un signe de vie. Il y a de la santé à quelque part là-dedans qui est en train de supplanter le vieil homme, d'accord? Et c'est ça qui est en train de se passer ici. Puis là, on est là, puis là, on dit « OK, je veux apprendre à marcher par l'Esprit, puis je veux laisser le Saint-Esprit me diriger, puis là, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour être dirigé par l'Esprit. » Mais voyez-vous, c'est quand même pas mal simple. Parce que dans le fond, quand à l'intérieur de toi, tu dis « Ça, ça serait la bonne chose à faire, mais j'ai le goût de faire ça. » C'est quoi la direction de l'Esprit? Pas tellement compliqué, hein? « Ça, ça serait la bonne chose à faire, je connais la parole de Dieu. » C'est l'Esprit qui est en train de te parler. Voyez-vous? Je comprends que des fois, je vais avoir des questions, tu sais, j'achète la maison bleue, la maison rose, c'est quoi que Dieu veut. Je comprends, là, c'est correct, tu sais, puis il y a des moments où tu veux que Dieu dirige, puis là, tu mets des tests, tu dis, Seigneur, conduis-nous, je comprends que c'est juste deux bonnes maisons, mais tu sais de qui tu veux que je sois voisin, puis, comprenez? C'est correct, c'est correct de chercher une direction providentielle de Dieu, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais au quotidien, là, nos questionnements sur la direction de l'Esprit sont beaucoup plus d'ordre moral. À savoir, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais quand le combat jaillit en toi, puis tu te dis, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, mais oh, j'ai le goût d'aller faire ça. C'est l'Esprit qui est en train de te parler. Tu n'as pas l'Esprit. Tu dis, ça serait bien de faire ça, mais pff, c'est là que je m'en vais. Mais tu as l'Esprit, puis là... Et tout ce que Paul est en train de me dire, c'est écoute les désirs de l'Esprit. Apprends à écouter les désirs de l'Esprit. Il y a des désirs très forts, des épitoumia très puissants qui expriment en toi. Apprends à l'écouter puis à obéir. Et ce qui va produire en toi, c'est le fruit de l'Esprit. La paix, la joie. On le sait comme chrétien, lorsqu'on décide d'écouter le vieil homme au lieu, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, on dit, tableau, je savais que j'allais filer mal. Je savais que je ne serais pas heureux. Je savais que je perdrais ma joie. Je le savais donc. Puis Paul dit, oui, apprends à écouter l'Esprit qui a ces désirs-là en toi, qui te pousse par là. Puis je pense que lorsque Dieu est en train de nous attirer à lui, lorsque le moment de notre nouvelle naissance approche, je pense que l'Esprit se fait souvent de plus en plus entendre. On voit cette idée dans les Évangiles que l'Esprit attire, il est là pour attirer, d'accord? Et donc ça se peut à un moment donné, comme faire le bien devient de plus en plus tentant, puis on dirait que le combat devient un peu extrême en nous, puis c'est souvent là que la conversion va se passer. Je vais céder, puis je vais dire, OK, Seigneur, c'est toi. C'est toi, conduis-moi. C'est toi le Seigneur, c'est toi le Sauveur. C'est toi qui dirige, puis je veux marcher par l'Esprit maintenant. Et voyez-vous, c'est pas si compliqué que ça, dans le fond, marcher par l'Esprit. Parce que sa voix est pas si mystérieuse que ça. Quotidiennement, j'apprends à aller dans les Écritures pour m'assurer que ce que j'entends, c'est bien conforme à la parole de Dieu. Donc, j'apprends à discerner, c'est vraiment l'Esprit qui parle, c'est 100% conforme aux Écritures, ce qu'il y a là, tu sais. Il y a un frère qui vient me voir, il me propose quelque chose, j'ai les Écritures pour voir, ouais, ça vient de Dieu, c'est clair, tu sais. Puis là, l'Esprit parle à mon cœur, il exprime ses désirs, j'apprends à écouter, c'est conforme avec la parole, j'apprends à écouter ses désirs, et j'apprends à choisir de marcher par l'Esprit, ne plus écouter la chair, pour vivre la paix, la joie, l'amour, la bonté, pour être libre de ces luttes-là que ma conscience me livrait sans jamais me soulager, sans jamais vraiment me donner bonne conscience. Dieu est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? La Trinité, ça vaut la peine de connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et des trois personnes, étrangement, la plus concrète actuellement, jusqu'à ce qu'on ait dans la présence de Dieu, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Qui l'eût cru, n'est-ce pas? Pourtant, il est là quotidiennement en train de nous parler. Et on a juste besoin d'apprendre à écouter sa voix, à discerner sa voix. Je termine avec un dernier passage que je vous lis. Le passage que je vais vous lire là, je n'avais pas ces mots-là. Mais dans les mois qui ont précédé ma conversion, c'était ça que je vivais, d'accord? C'est ça que je vivais. Apocalypse 22, 16, 17. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. » Si cette expérience-là avec l'Esprit Saint, ce n'est pas quelque chose que tu vis quotidiennement, c'est possiblement que tu n'es pas habité de l'Esprit. Mais en même temps, s'il y a cette attirance à venir donner ta vie à Jésus-Christ, placer ta foi dans son sacrifice, si ça c'est là, c'est l'Esprit qui est en train de te dire, viens, viens boire de cette eau et le Seigneur Jésus va faire en sorte que je vais venir habiter en toi pour produire un fruit tellement bon, tellement agréable. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer, te rendre grâce pour ton amour, pour le sacrifice que tu as accompli en venant t'offrir sur cette croix pour que mes péchés soient pardonnés, Seigneur. Seigneur, je ne méritais pas et je ne mérite toujours pas ce grand privilège d'être habité par l'Esprit de Dieu. Seigneur, des combats spirituels où la chair fait entendre des désirs contraires à ton esprit, j'en vis quotidiennement, Seigneur. Mais par ta grâce, plus je grandis dans ma foi, plus je prends plaisir à marcher par l'Esprit, à être sensible à cette communion intime que j'ai avec toi, mon Dieu, par ton Esprit qui habite en moi. À prendre plaisir dans ta sainte parole afin que mon intelligence, non seulement mon cœur, mais mon intelligence soit nourrie à tous les jours, qu'une pensée nouvelle soit formée en moi, que je sois renouvelé, Seigneur. Je prie, Père, pour chacun d'entre nous, ceux d'entre nous qui ont l'impression de ne plus entendre jamais ton esprit parler parce qu'ils ont cédé le pas à des péchés dans leur vie qui les ont complètement engourdis, endormis. Ils ont l'impression d'être revenus à cet état d'avant la nouvelle naissance où la voix de Dieu n'est que la voix de la conscience, occasionnelle et très faible. Une grande source de culpabilité, mais peu de joie. Accorde-leur, Seigneur, une repentance profonde. Qu'ils réalisent aujourd'hui qu'ils ont attristé ton Esprit Saint en profanant ce temple saint et leur corps. Convainc-les, Seigneur, de se repentir, de te demander pardon et d'accepter ta grâce, afin d'entendre à nouveau, avec un écho puissant, la voix de ton esprit, Abba, Père, en eux. Je prie, Seigneur, pour ceux d'entre nous qui, quotidiennement, vivons ces luttes, mais on prend plaisir à te découvrir, à te connaître de plus en plus et à marcher par ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Enseigne-nous à être attentifs, à honorer ce grand privilège d'être habité par Dieu. Et produis en nous, nous t'en prions, ce merveilleux fruit, Seigneur. Je prie, Père, pour ceux d'entre nous qui ne te connaissent pas personnellement et qui peut-être sont sceptiques, qui ont l'impression que tout ça, c'est une lubie, le fruit de notre imagination, Seigneur. Et Père, expose-les à eux-mêmes. Expose-les à eux-mêmes afin qu'ils puissent goûter, sentir leur misère sans toi. Puis attire-les à toi, Seigneur. Viens faire ce miracle, car sans toi, On ne peut pas venir à la connaissance de Jésus-Christ. C'est une œuvre grande et merveilleuse que tu fais en nous. Seigneur, accorde-leur cette même grâce que tu nous as accordée. Nous t'adorons, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous te bénissons, ô Dieu. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.